Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, j'ai le docteur Europe 1 à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, d'abord notre grand dossier du jour dans lequel nous allons prendre soin des enfants. Des enfants lorsque les parents se séparent. C'est un accident de la vie très fréquent. Aujourd'hui, un couple sur deux, un mariage sur deux se termine en divorce. Alors comment épargner le plus possible les enfants ? Quels sont les bons conseils à suivre pour leur annoncer bien les choses et puis bien préparer la suite ? Car forcément, cela entraîne aussi des bouleversements dans leur vie à celle des plus jeunes. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevrons dans ce studio Virginie Limousin, psychopraticienne et auteure du livre « Quand les parents se séparent » paru chez Nathan. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque nous rejoindra pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il prévoit de chouchouter notre chevelure. Il va nous aider à en finir, Jimmy. Je suis sûr que vous êtes content avec les fourches et les cheveux cassants. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, il sera question de ce qu'on peut dire ou pas en tant que parent de ses expériences amoureuses à ses enfants.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Ambre. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Je cherche à changer de solution contraceptive et j'aimerais opter pour un anneau contraceptif. J'ai lu qu'il était efficace dans 99% des cas. Mais l'anneau, est-ce qu'il va avoir un effet sur mon cycle menstruel et est-ce qu'il ne va pas être désagréable lors de mes rapports sexuels ? Voilà, si vous pouviez me préciser tout ça. Merci beaucoup, bonne émission.
Alors Ambre, justement, pour vous préciser tout ça, nous avons fait appel à Isabelle Héron, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. On l'écoute.
L'anneau contraceptif, qu'on appelle aussi l'anneau Novaring, est une contraception hormonale qui est très efficace puisqu'il est placé dans le vagin pendant 3 semaines. Il a surtout un intérêt chez les jeunes femmes qui ont tendance en fait à oublier la pilule, c'est-à-dire cette contraception hormonale qu'on prend sous forme de comprimé. Concernant le cycle, il n'y aura pas de désagrément particulier. Pendant l'arrêt d'une semaine, vous aurez vos règles et vous n'aurez a priori pas de saignement pendant la pose de l'anneau. Concernant en fait la gêne pendant les rapports, a priori, il n'y a pas de désagrément particulier. Il est bien toléré. Et si pendant les rapports sexuels, il est expulsé, il faut le remettre dans le vagin sans aucun risque particulier.
Voilà, c'était le docteur Isabelle Héron au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une deuxième question pour vous. Cette fois, celle que nous a laissée Anthony. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et bonjour Jimmy. Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler du variant breton. On nous dit qu'il est plus difficile à détecter, mais par ailleurs, les autorités disent qu'il n'est pas préoccupant pour le moment. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il est plus dangereux et est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète ? Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Alors Jimmy, effectivement, après le variant anglais, le brésilien, le sud-africain, voilà maintenant le breton. Peut-on dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui à ce stade en tout cas ?
Alors c'est vrai que des variants, on en a de plus en plus. Il faut bien comprendre qu'un variant, avant de parler de variant, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait une différence avec un virus qui circule habituellement. Des variants, il y en a plus de des milliers, des dizaines de milliers. La seule chose, c'est est-ce que ce variant est plus contagieux ? Est-ce qu'il est plus mortel, moins contagieux ? Ou est-ce qu'il change quelque chose dans la prise en charge ? Et il semblerait que ce variant breton résisterait à la PCR, c'est-à-dire que lorsqu'on vous fait une PCR,
donc la PCR, le coton-tige dans le nez, oui.
Eh bien, le test revient négatif, alors qu'en fait, vous êtes porteur du virus. Il pourrait réussir à tromper les examens, mais attention, c'est que des données préliminaires et on en saura plus dans quelques temps.
D'accord. Et avec la circulation de ce nouveau variant, Jimmy, est-ce que déjà, en Bretagne, où il circule, ça on le sait, est-ce que ça implique de nouvelles précautions quand même ?
De toute façon, port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans et plus, évidemment, sur le territoire du département des Côtes d'Armor. Consommation interdite de boissons alcoolisées du 3e au 5e groupe sur l'ensemble du département. On n'a pas le droit d'utiliser de la musique amplifiée. C'est une règle qu'on a mise sur la voie publique.
Pour éviter les rassemblements festifs. Quoi, hein,
les vides-greniers, les brocantes, les braderies, les déballages sont interdits, même si ces mesures sont peut-être un peu discutables.
D'accord. Alors, devant un cas suspect de variant breton, qu'est-ce qui est préconisé à ce stade ?
Alors, de toute façon, quand vous avez des symptômes de coronavirus, quels qu'ils soient, ou même si ça ne ressemble pas à du coronavirus, il faut vous faire tester. Et à ce moment-là, vous êtes isolé en attendant d'en savoir plus. Et donc, étant donné que le variant britannique est un peu majoritaire, eh bien, on va vous isoler de façon préventive durant 10 jours. Et puis, on fait le prélèvement classique de PCR entre J0 et J7, dans la mesure du possible, sur un prélèvement un peu plus profond, sur des crachats. Et puis, le contact tracing va inclure un isolement de 7 jours des contacts à risque. Et donc, attention, on fait dans ces cas-là un test PCR immédiat et on fait une semaine après. Et puis, on fait ce qu'on appelle un contracing rétroactif, c'est-à-dire qu'on fait l'enquête autour pour savoir d'où vient ce virus. Et on ne va pas simplement chercher les personnes dans votre entourage pour essayer de remonter à la source de cas de coronavirus.
Si on est vacciné contre la Covid, est-ce qu'on est protégé contre ce variant breton ?
Pour le moment, on n'en sait strictement rien. Donc, des investigations sont en cours. On espère qu'évidemment, ce variant ne pose pas tant de problèmes que ça et que la vaccination réponde. Pour l'instant, à l'heure actuelle, le variant prédominant, c'est le variant anglais. Et heureusement, les vaccins, dont AstraZeneca qui vient d'être réhabilité,
protègent en partie contre le variant anglais. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Virginie Limousin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopraticienne, autrice du livre « Quand les parents se séparent » qui est paru donc chez Nathan. Alors ce sera notre thème avec vous cet après-midi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le jour où ça arrive, une séparation, donc les parents se séparent, est-ce que les enfants, c'est quelque chose... Bon, bien sûr, il y a un moment où on leur annonce, mais est-ce que souvent vous vous rendez compte, vous par exemple en consultation avec les petits que vous voyez dans cette situation, qu'ils avaient senti la chose arriver ?
Ben, ça va dépendre des familles, en fait. Effectivement, il y a une bonne partie des familles où le couple se disputait devant les enfants. À partir du moment où ça dégénère dans le couple, en général, les enfants deviennent témoins, et ce qui génère beaucoup de souffrance. Mais on peut aussi voir des familles où en fait tout était sourd et où il n'y a pas eu de dispute.
Et les conflits sont cachés.
Où même les parents n'ont pas de conflit entre eux. Il y a du silence, des non-dits et ça se déclenche d'un coup. Donc les enfants ne sont pas toujours en train de le voir. Et puis en plus, c'est toujours une surprise pour eux.
Et justement, vous écrivez dans votre livre que quand les parents se séparent, c'est le pire jour de leur vie, en tout cas aux enfants. Est-ce qu'ils ressentent les choses vraiment comme ça ? C'est ce qu'on vous rapporte ?
Oui, alors beaucoup d'enfants ne vont pas réaliser en fait quand on leur annonce. Il faut déjà être un peu grand pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça veut dire se projeter dans quelque chose. Après, les enfants d'aujourd'hui ont déjà des petits copains, des petites copines qui ont les parents séparés, donc ils en ont entendu parler. Et c'est vrai que c'est un peu... ils sentent que c'est quelque chose de très très fort, parce qu'ils sentent l'émotion des parents et ils sont... comme contaminés par cette charge émotionnelle d'un coup. Et donc, effectivement, ils sentent qu'il va se passer quelque chose de grave.
Mmh. Vous en avez rencontré des enfants qui sont passés par cette étape. C'est quoi, en général, la première réaction ? Votre livre, justement, « Quand les parents se séparent », ce sont des histoires pour comprendre et mieux vivre ce moment. Est-ce qu'ils en veulent forcément aux parents ou pas, les enfants ?
En fait, c'est souhaitable.
Ah, c'est bien,
c'est-à-dire que ouais, c'est drôlement important. En fait, à partir du moment où les parents se séparent, on a un processus de deuil qui se met en place. Le deuil de la famille, le deuil des parents ensemble, amoureux. Et donc, une des premières étapes du deuil, ce serait de pouvoir exprimer la colère. Mais on va souvent alterner avec une période de déni, une période où certains enfants vont simplement aller jouer et vont faire comme si de rien n'était. D'autres vont complètement prendre sur eux, d'autres vont peut-être pleurer et être vite dans la tristesse. Et en fait, la colère nous permet à un certain moment plutôt de nous protéger entre cette grande tristesse qui va venir à un moment donné et nous permet de surmonter l'épreuve et voilà, d'exprimer, de prendre de la puissance sur la situation.
Donc la colère, elle est souhaitable.
D'accord. Est-ce que parfois les enfants se sentent coupables en se disant que c'est peut-être de leur faute, que les parents se séparent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils expriment ?
C'est très, très souvent le cas. En fait, un enfant n'a pas un cerveau d'adulte en miniature, il a un cerveau vraiment immature. Et de par cette immaturité, il n'a pas... beaucoup de cerveau néocortex, cerveau préfrontal développé, du coup, il est très auto-centré sur lui. Ce qui va faire que toutes les situations, il les interprète comme quelque chose dont il serait le centre. Et donc, la seule façon d'expliquer les choses pour lui, c'est de se sentir, de se dire « qu'est-ce que j'ai fait ?»
Et ça, c'est très important quand on leur annonce, justement, le moment de l'annonce, papa et maman vont se séparer, quel que soit, enfin, on va parler justement de est-ce qu'il y a un bon moment ou pas, mais de leur dire cette phrase, tu n'y es pour rien, papa et maman n'ont rien contre toi, c'est une histoire d'adulte, enfin, je ne sais pas comment on le formule. Mais...
Oui, c'est vraiment important et le tu n'y es pour rien est vraiment important à dire. Et on a besoin quand même de garder en tête que il va sûrement croire que c'est de sa faute, surtout si on continue de se disputer pour des briques et des brocs et pour la garde, surtout. Des enfants. Et donc, on va avoir besoin d'être vigilant et de, à un moment donné, se mettre en empathie. Il est probable que tu te dises que c'est de ta faute. Et ça, c'est drôlement dur à vivre pour toi. Ça te fait vraiment mal dans ton cœur et c'est normal que tu te dises ça.
Comment est-ce qu'on l'annonce aux enfants? Parce que je suppose qu'il faut un moment spécifique, qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Est-ce qu'on se réunit de façon formelle?
Est-ce que les deux parents doivent être là,
est-ce
d'ailleurs?
Est-ce qu'on doit tous être là, comme un diagnostic d'annonce quasiment, ou pas du tout?
Alors, il y a l'idéal, il y a la théorie, puis il y a la pratique.
Alors, l'idéal,
donc,
c'est quoi?
En général, quand on se quitte, c'est qu'on ne se comprend plus et qu'on a du mal à communiquer. Donc, évidemment, dans l'idéal, on s'est d'abord concerté avant et on se prépare à l'annoncer tranquillement aux enfants. Et avec, en fait, en tête que nous sommes les adultes et que nous avons, à ce moment-là, à être disponibles pour les enfants. C'est-à-dire disponibles pour leurs émotions, ce qui va s'exprimer, leurs questions. Et si c'est annoncé de but en blanc
en
comme ça...
En les posant à l'école un matin sur le chemin,
non. En les posant à l'école, eux, ils restent avec leur paquet jusqu'au soir, et voilà. Et si on l'annonce en étant nous-mêmes extrêmement émotifs, etc., on va être centré sur nous et pas sur eux.
Donc, ce soit le bon moment pour nous et pour eux, choisir le moment.
Mais c'est tellement
adéquat.
Difficile pour nous aussi, les adultes.
Est-ce qu'il y a un âge, d'ailleurs, parce que bon, on peut être amené à se séparer quand les enfants sont tout petits, à un an, on ne va peut-être pas leur expliquer, est-ce qu'ils comprennent vraiment quelque chose aussi? Est-ce que même à un an, à deux ans, il faut prendre le temps, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a un marqueur d'âge, comme ça, un repère?
Dolto a dit qu'on parlait au bébé, et elle le faisait très bien, et quand on parle à un bébé, il écoute. Il regarde avec ses yeux. Donc, même s'il ne comprend pas les mots, il comprend la démarche. Et il est connecté à nos émotions. Donc, si à l'intérieur de nous, on peut trouver un ancrage et de la sécurité, on va lui transmettre ça. Donc, il sent qu'il se passe quelque chose de fort. Et en même temps, il peut sentir qu'on est là pour lui.
Virginie Limousin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous Virginie Limousin, vous êtes psychopraticienne et autrice du livre « Quand les enfants se séparent » paru chez Nathan. Alors lorsque les parents ont divorcé, c'est fait on va dire, dans notre petite histoire qu'on se raconte cet après-midi, normalement quand on est séparé, de corps en tout cas, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de cris, ça c'est le côté bon côté on va dire pour les enfants, mais il y a donc souvent deux maisons. Alors, pas tout à fait, puisque dans votre livre, il y a une des histoires, l'enfant, il alterne entre la maison de maman et la maison, finalement, des grands-parents paternels. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, ce genre de situation aussi, qui ne sont pas forcément toujours chez papa, chez maman?
Ça fait partie de la réalité, c'est-à-dire qu'en général, il y a toute une période de flottement. Pour des raisons de situation géographique, pour des raisons de séparation, c'est pas facile de se séparer, en fait. Donc, ça va progressivement. Et c'est bien d'intégrer les enfants là-dedans et de les accueillir dans ce que ça va générer chez eux. Donc, des fois, passer par chez papy-mamie, ça peut être positif ou ça peut être très difficile, selon le niveau de stress dans la maison.
Et donc, ce changement, ça va entraîner des pertes de repères. Est-ce que c'est classique d'avoir un enfant qui va se mettre à réclamer le papa alors qu'il est chez la maman et à l'inverse, quand il est chez la maman, réclamer le papa?
Oui, en fait, on aime avoir notre papa et notre maman ensemble. On aime les voir amoureux aussi. Et du coup, vivre des choses d'un coup avec l'un nous donne envie d'aller montrer à l'autre, de partager avec l'autre. Donc, inévitablement, on va ressentir de la tristesse et en même temps de la joie. Voilà, on a cette ambivalence, on a des émotions mélangées.
Comment on gère ça quand notre enfant est avec nous et puis il réclame son papa? Aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication. Il ne faut pas hésiter à le faire téléphoner à son papa. Ou est-ce que la semaine avec maman, c'est la semaine avec maman? Il faut rentrer dans des trucs un peu plus stricts pour qu'il s'habitue finalement. Qu'est-ce que vous conseillez?
Si on s'entend bien, l'idéal, c'est vraiment que les enfants aient une certaine liberté à cet endroit.
Un accès direct à la communication avec papa besoin ou l'inverse.
C'est où on a besoin d'être vigilant, c'est si c'est nous, le parent qui ne sommes pas avec l'enfant à ce moment-là, si on se met à appeler trop, etc., là, l'enfant peut ressentir qu'il a à s'occuper de nous. Et ça peut être néfaste pour lui.
Dans un monde parfait pour l'équilibre de l'enfant, quel est le meilleur mode de garde? Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que lorsque l'enfant va chez papa le week-end, ça peut être suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un monde parfait quand on peut se le permettre?
Alors, c'est une question vraiment complexe et à laquelle... beaucoup d'études tentent de répondre actuellement. Ce qui ressort vraiment, c'est que les enfants en dessous de 3 ans, voire même 5 ans, ont vraiment besoin d'une grande stabilité.
Donc, et d'une seule maison principale.
D'une seule maison principale, ce qui permet d'avoir ce que les psys appellent la permanence de l'objet, c'est-à-dire je suis installée, je suis sécure, et c'est beaucoup plus positif que, par exemple, si le petit... Imaginons un bébé qui est allaité, ça va être le cas le plus typique, qui va du coup rester avec maman et avec le sein. Et donc, l'idéal, ce serait que papa puisse passer le plus souvent possible et prendre des petits temps, etc. Et puis, progressivement, de faire que le bébé peut aller dormir chez son papa. Et puis, en fait, la garde, elle va évoluer en fonction des besoins des enfants. Quand les enfants grandissent, ils ont d'autres besoins et petit à petit, ils vont pouvoir aller de plus en plus vers une équité.
La garde alternée qui paraît quand même la chose idéale pour tout le monde. Mais quand tu es dans une famille, il y a une fratrie, plusieurs frères et sœurs. Est-ce que là aussi, c'est très important qu'ils restent toujours ensemble? Moi, j'ai déjà entendu des couples où des fois, l'aîné restait chez papa, la petite sœur, elle part chez maman. Parfois aussi, on fait ce que les enfants demandent pour certains parents. Est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est compliqué et ça peut avoir des risques finalement de séparer les fratries?
Alors, ça a beaucoup d'avantages que les enfants restent ensemble parce que du coup, c'est ce qui crée leur stabilité aussi. Il y a une habitude. Par contre, c'est vrai que du coup, autant nous, on se ressource dans les moments où on est sans les enfants et on les retrouve et on est complètement disponible en tant que parents, autant eux, à un moment, ils peuvent se taper sur le système, si je peux me permettre l'expression. Donc, je sais que pas mal de familles font par exemple une nuit où les enfants ne sont pas ensemble et où ils sont avec chacun des parents ou alors deux enfants avec un parent, un avec l'autre.
Bon, on peut moduler si ça leur convient.
Et
en
ça,
tout
c'est
cas, ouais.
tellement ressourçant pour les enfants parce que du coup, ils retrouvent ou ils apprennent à avoir un temps privilégié avec le parent et ça, ça les nourrit tellement. Donc, à chaque famille de trouver son équilibre et mieux les parents s'entendent, mieux les enfants vont s'entendre aussi et vont trouver
et
des
solutions. Et justement, pour préserver cet équilibre, est-ce qu'il faut acheter tout en double? C'est-à-dire que quand il est chez papa, eh bien, on a les affaires de chez papa et puis chez maman, on a la même chose. Ou est-ce qu'on les transpose d'un foyer à l'autre?
Encore une question vraiment délicate et qui ça génère pas mal de stress. Il faut savoir que les enfants qui sont en garde alternée ont un niveau de stress un peu supérieur aux enfants qui sont dans une maison privilégiée ou alors les enfants qui ont les parents passés par
pour des questions d'organisation, on pensait à la valise et tout ça. Ouais.
Mais c'est ça, il y a des enfants qui vivent vraiment avec le sac à dos sur le dos, avec la valise. Donc, dans l'idéal, s'ils ont certains jouets qui sont vraiment importants ou certains habits qu'ils adorent d'un coup, si on peut trouver en double ou vraiment ça, on va faire en sorte de pouvoir les déplacer d'une maison à l'autre. Ça va être tellement sécure pour l'enfant, c'est vraiment à mettre en place.
Virginie, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous êtes sur
Retour dans Sans Rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Voilà, vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Virginie Limousin, vous êtes psychopraticienne et avec vous, on fait le point donc sur ce qu'il est conseillé de mettre en place pour rendre la vie plus douce aux enfants quand les parents se séparent. Et dans votre livre, justement, on voit un exemple d'un enfant qui devient agressif après le divorce de ses parents, qui voit tout en noir. Quels sont les signes chez un enfant, justement, qui doivent conduire à s'inquiéter? Parce que tous ne verbalisent pas. Celui-là, il est énervé, il est en colère, il est fâché, il verbalise des idées noires, mais tous ne le font pas. Alors, qu'est-ce qui doit nous inquiéter dans les petites choses du quotidien?
Tout ce qui est signe de stress. Et donc, le stress, c'est la réaction physiologique naturelle d'adaptation de l'organisme. Et on a trois réactions principales de stress. Tout ce qui est du domaine de l'attaque. Donc, c'est là qu'on va mettre tout ce qui est agressivité, crise... colère, etc. Et on va avoir tout ce qui est figement. Donc, les enfants qui se replient sur eux, qui parlent moins, qui sont tristes, qui pleurnichent, etc. Et puis, tout ce qui est du domaine de la fuite. Donc, là, c'est plus des enfants qui claquent la porte, qui s'enferment dans leur chambre.
Tout ça, c'est des signes.
Tout ça, ce sont des signes, ouais.
Mieux se faire aider, du coup, et aller voir un psy, ou est-ce qu'on tente de désamorcer ça? Et à l'inverse, si l'enfant ne manifeste aucune de ces choses, est-ce qu'il faut quand même aller consulter de façon préventive?
Consulter, ce n'est pas une obligation. On peut vraiment s'en sortir.
Tous les enfants de parents divorcés n'en ont pas besoin.
Bah, oui, heureusement.
Vous auriez beaucoup de travail.
Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Mais ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ses enfants, d'anticiper avec beaucoup de phrases d'empathie, de leur donner la possibilité de s'exprimer. Et on a aussi... aujourd'hui, dans les rayons des librairies, beaucoup de livres sur la séparation des parents qui peuvent vraiment aider les enfants à verbaliser et accompagner les parents dans oser en parler.
Parfois, les enfants ils vont réagir bien en journée avec nous, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est la nuit. Un enfant qui commence à faire des cauchemars, un enfant qui dort mal, qui a du mal à s'endormir, ça peut être un signe du divorce qui ne passe pas si bien, c'est possible?
Oui, il peut avoir beaucoup d'enfants ont des difficultés à dire avec des mots. Et donc, parfois, quand il y a beaucoup de mots, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions qui sont réprimées, ça va s'exprimer justement à travers des cauchemars et des histoires qui font peur.
Est-ce que dans un monde parfait, les ex-conjoints doivent
Jimmy,
faire
il aime
semblant...
beaucoup le monde parfait. Hein.
Oui, parce qu'on comprend que finalement, lorsqu'on est dans la vraie vie, c'est un peu différent. Donc, dans un monde idéal, est-ce que les parents doivent faire semblant d'être encore amis, d'être proches et surtout de ne pas se disputer ou de se reprocher des choses devant les enfants?
C'est vraiment important de ne pas mettre les enfants au cœur des disputes ou témoins des disputes parce que, on en a parlé tout à l'heure, ça génère chez eux de la culpabilité et ça leur crée aussi des conflits de loyauté, c'est-à-dire qu'ils voient que les parents ne s'aiment plus et ils peuvent être attirés, souvent inconsciemment, par l'un des parents ou les deux à vouloir être le préféré, à vouloir que l'enfant prenne parti. Certains enfants se retrouvent même à transmettre les messages à l'autre parent, etc. Non, vraiment, on a à prendre nos responsabilités d'adultes. C'est à nous de faire tout ça et de pouvoir au maximum laisser les enfants dans leur monde, jouer, être avec les copains.
Donc si vraiment on peut plus se sentir avec l'ex-conjoint, il vaut mieux pas se voir en présence de l'enfant. C'est mieux que de se voir et de s'engueuler, quoi, c'est ça hein?
Ben oui, ça peut être bénéfique pendant une période de ne pas se croiser. Si quand on se croise, ça explose. On peut aussi aller dans les centres de médiation, on peut aller chez des thérapeutes de couple qui aident aux séparations aussi. Il y a vraiment tout un tas de possibilités aujourd'hui pour nous accompagner.
Toujours dans ce principe de stabilité, est-ce que c'est important d'avoir les mêmes règles d'éducation? Si maman dit pas de télé après 20h, il ne faut pas que papa soit le gentil papa qui accepte tout et n'importe quoi. Donc il faut accorder nos violons malgré la séparation, c'est difficile.
Alors les enfants, ils ont des capacités d'adaptation, hein, comme tous les êtres humains. Donc ils arrivent à comprendre quelles sont les règles chez papa, quelles sont les règles chez maman. Après, là où ça marche le mieux, c'est quand à certains moments et sur les grandes lignes éducatives, les parents s'entendent et peuvent se mettre d'accord, évidemment, ça va aider l'enfant à se stabiliser, à se sentir sécurisé.
Mais si vraiment l'autre fait de l'inverse de ce qu'on fait, je veux dire, par exemple, le fait pas travailler à l'école, là, je parle de l'ex-conjoint affreux, hein, qui va faire vraiment l'inverse de tout ce qu'on faisait même quand on était ensemble, est-ce qu'on a en droit d'intervenir? On n'est plus en couple, mais cet enfant, on l'a fait ensemble, donc est-ce que vous pensez que là, il est pas devant les enfants, mais est-ce qu'on peut pas quand même intervenir?
Ouais, c'est un sacré problème.
Les choses qui l'empêchent, ils le font coucher trop tard, enfin, je sais pas, ouais.
C'est un sacré problème. C'est pour ça qu'on va tout faire pour privilégier une communication dans le couple. Et si vraiment, quand on cherche à parler à l'autre parent, il ne veut pas nous écouter, etc., on peut tenter les centres de médiation.
Là encore, ouais,
on va tout faire pour effectivement créer un dialogue qui va être au bénéfice de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant et pas pour régler nos comptes.
Mais parfois, ça se passe bien quand même, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup de cas où tout va bien.
Mais oui, bien sûr. Et puis, y a aussi, c'est pas facile d'avoir ses parents qui se séparent, mais il y a aussi plein de belles choses qui se créent ensuite. Donc, on a besoin de pouvoir digérer cette période, de pouvoir s'adapter pour ensuite voir toutes les beautés que la vie va nous offrir.
Merci beaucoup, Virginie Limousin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous rappelle votre livre « Quand les parents se séparent » paru chez Nathan. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, vous avez décidé de prendre soin de nos cheveux parce que si on les néglige, ils peuvent rapidement s'abîmer et se casser. Jimmy en sait quelque chose, c'est bien ça?
Oh oui. Exactement. Premièrement, le cheveu peut être cassant. En gros, il manque d'hydratation et là, il va se fragiliser et se casser, et ça peut être dès la racine. Et puis, vous l'avez dit, on peut avoir des cheveux fourchus. Et là, il faut savoir qu'un cheveu, sa durée de vie est comprise entre 3 et 7 ans. Oui. Donc, avec l'usure, c'est tout à fait normal. À l'extrémité du cheveu, il va se dédoubler et ça va former, comme son nom l'indique, une fourche.
Alors, on veut tous savoir, Benjamin, à quoi est ça justement.
Vous en pouvez plus d'attendre.
Les Français veulent savoir. Les cheveux cassants et les cheveux fourchus, à quoi c'est dû?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le fait de se passer la main dans les cheveux en permanence. Je
vous
vois faire,
Mélanie. Vous n'arrêtez pas, Jimmy, vous aussi, là, de remettre la
loupette. Ça va abîmer la tige pilaire. Ensuite, il y a la chaleur, qui est l'ennemi numéro un du cheveu. Et oui, on abuse parfois trop du sèche-cheveux, du lissage et des brushings. Et puis pour Isabelle Krupka, qui est des laboratoires Druid, il y a des causes environnementales.
Souvent, c'est l'été, hein, avec le soleil, le sel de la mer, le chlore ou un temps très sec. Ça va favoriser l'ouverture des écailles des cheveux et donc les fragiliser.
Enfin, les colorations à répétition peuvent être fatales pour notre chevelure, comme l'explique Claire Brevard, elle est formatrice à l'Institut Airfax de Vincennes.
Le principe de la coloration, ça va être d'avoir une phase qui s'appelle la phase d'oxydation, qui va altérer le pigment naturel du cheveu pour ensuite apporter un pigment artificiel. Ce principe-là, quand on pénètre dans directement la fibre capillaire avec l'oxydation, ça peut fragiliser si ce n'est pas réalisé dans un cadre professionnel avec un vrai conseil.
Benjamin, si j'ai des fourches comme Jimmy, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'il faut qu'il rase tout?
Ah bah malheureusement, si toutes les pointes sont fourchues, c'est un peu inévitable. Il va falloir couper entre 1 et 2 cm. Mais j'ai découvert une recette de grand-mère, entre guillemets. C'est la méthode de la dernière chance, je vous préviens. C'est la technique du brûlage, comme nous l'explique Claire Brevard.
C'est une technique qui est un peu archaïque. Ça demande une très grande maîtrise. Moi, j'y ai assisté une fois. On prend une mèche, on l'entortille, on ressort en fait toutes les fourches et on passe une flamme sur les fourches pour les brûler. Donc ça, c'est la vraie technique du brûlage. Franchement, il faut vraiment la maîtriser et je ne suis pas sûre que ce soit très très agréable de se faire brûler les cheveux. C'est un peu affolant. En général, c'est quand même les anciens coiffeurs qui ont gardé la maîtrise de cette technique. Après, il y a certains coiffeurs qui vont utiliser des techniques de coupe très particulières avec un rasoir pour gratter un peu les fourches dans les longueurs.
Non mais jamais de la vie, je me brûle
les cheveux.
Non, on oublie, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin, pour éviter d'avoir les cheveux cassants ou fourchus?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'abusez pas des sèche-cheveux, des colorations. Autre geste à bannir, évitez de vous tripoter la tignasse. Et puis, bien savoir se brosser les cheveux correctement. Alors, pour avoir le bon coup de peigne, on écoute les instructions de notre spécialiste Claire Brevard.
Dans la gestuelle, un brossage, on commencera systématiquement par la pointe, remonter dans la longueur pour ensuite démêler l'intégralité de la chevelure. Si on commence de la racine et qu'on a un nœud qui s'est formé dans la longueur, bah, en fait, on va avoir tendance à tirer un peu, ce qui va fragiliser le cheveu et ce qui peut le casser précocement.
Et puis, il y a des shampoings à privilégier, ou plutôt à éviter, pour ne pas avoir les cheveux raplapla, c'est choisir une gamme sans sulfate, puisque c'est un agent moussant et donc qui va assécher la fibre capillaire et donc augmenter le risque de fourche.
Allez, un dernier petit remède, Benjamin.
Et oui, certaines spécialistes conseillent de faire de la luminothérapie capillaire.
Ah oui.
On peut en faire dans plusieurs salons ou instituts de beauté. Et le mieux, c'est d'en faire des cures de 1 ou 2 mois régulièrement.
La luminothérapie va avoir une véritable action au niveau du cuir chevelu. Donc ça va redynamiser, apaiser, ça va réguler, si vous voulez, les fonctions du cuir chevelu. Ça va avoir un impact sur le cheveu et sa pousse.
Et pour finir, dernière astuce, la nuit, c'est de s'endormir les cheveux attachés pour éviter les frottements qui favorisent justement les fourches et les cheveux cassants. Donc faire un chignon style ananas comme moi, ou encore le mieux, c'est de vous tresser les cheveux.
Merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté du vendredi. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez pour la chronique sexo de Catherine Blanc. À tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, bien sûr, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous, évidemment, depuis 15h. Alors toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va bien terminer la semaine avec cette question de Brigitte qu'on écoute tout de suite.
Bonjour. Alors j'aurais une petite question à vous poser. J'ai mon fils de 11 ans qui est en 6e, qui m'interroge beaucoup en ce moment sur mes propres expériences à son âge. Notamment, il voudrait savoir mon tout premier baiser. Il me pose des questions très techniques, du genre comment on roule une pelle, etc. Je ne sais même pas comment lui expliquer. Alors, si vous pourriez me donner quelques petits conseils, je vous en serais très reconnaissante. Merci, au revoir.
Alors Catherine, une jeune maman inquiète, jeune maman, son fils a 11 ans, c'est une jeune maman, pourquoi pas. Est-ce que c'est normal d'ailleurs à 11 ans c'est le début, on est en prépuberté j'imagine, donc de poser déjà ce genre de questions à sa maman, comment on roule une pelle, comment tout ça, elle veut tout savoir, c'est normal?
Oui, c'est tout à fait normal d'ailleurs, souvent ça se raconte entre copains, copines, donc en parler à sa maman, c'est la preuve aussi de la confiance qu'on peut avoir en elle.
Ou qu'il est encore très bébé peut-être
et puis qu'il va chercher effectivement auprès de sa maman. Alors évidemment toute la difficulté c'est qu'est-ce qu'une maman
maman doit répondre. Est-ce qu'il est question de raconter sa vie et son intimité à elle, de ses 11 ans à elle, ce qui peut lui paraître très anecdotique, mais c'est très érotique puisque c'est ce vers quoi il tend lui-même et qui lui pose nombre de questions. Ou est-ce qu'elle doit être pleine de détails ou pas? Donc, je crois
alors,
que la première,
la réponse, c'est quoi
la première des choses, c'est de dire qu'est-ce que tu en penses et d'abord de retourner la question à l'enfant. C'est qu'est-ce que tu en penses? Tu en as envie? Tu n'as pas envie? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais à cet âge-là? Moi, je l'ai fait, j'étais plus grande que toi ou j'avais ton âge. On va éviter de dire qu'on avait 3 ans de moins. voilà, donc c'est se dire que tu sais, chaque expérience est nouvelle parce que le but, c'est pas qu'ils s'inscrivent dans l'expérience parentale.
Bien sûr.
Après, il faudra que tu demandes peut-être à ton papa puisque ça te donnera un point de vue de garçon.
Oh, et puis, je te balance la patate chaude, papa, débrouille-toi avec ça. Ça, c'est agréable dans le couple parfois.
Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce que c'est un petit garçon et que le but, c'est pas qu'il soit dans un truc où il va idéaliser que sa maman, petite fille, désirait pour faire à une petite fille ce que sa maman
bien
désirait.
Sûr.
Voilà, c'est un peu pour pas mélanger les histoires et lui laisser la possibilité de sa créativité parce que plus il verra sa maman, plus ça va être encombrant pour l'avenir et même pour la situation en question.
Et en tout cas, on cherche à tout prix à répondre ou à faire répondre par quelqu'un d'autre, puisque si jamais nous ne répondons pas, eh bien, il ira chercher peut-être des références qui ne sont pas bonnes, peut-être
absolument.
Dans la pornographie
bien
ou autre.
Sûr, bien sûr.
Et donc, il ne faut pas se dire, il a 11 ans, t'es trop petit. Non, c'est une histoire de grand. Il faut aussi parfois avoir le courage en tant que parent, même si on est mal à l'aise, bien dire, on va y aller, ou en tout cas, on va trouver quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise que nous.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison.
S'il pose la question, c'est qu'il a l'âge d'entendre une réponse, au moins.
Oui, oui, et puis qu'il est de toute façon dérangé par le questionnement. Il est dans le questionnement où il a été dérangé dans sa vie par le questionnement, et on ne laisse pas l'enfant face au silence, bien évidemment. Alors, on ne fait pas tout le chemin pour lui, mais on lui demande d'ailleurs de nous guider sur le chemin, parce qu'on n'arrive pas en disant, moi je m'en souviens très bien, alors, et on raconte tout d'un coup un truc, une épopée incroyable. On est allé bien au-delà de ce que l'enfant voulait savoir. Donc, c'est lui expliquer que pourquoi tu as envie de faire un baiser à une fille, comment tu penses que c'est, qu'est-ce que tu crois que tu dois faire ou pourquoi me poses-tu ces questions? Est-ce que tu as peur de ne pas savoir faire? Parce que finalement, un baiser, c'est faire quelque chose dont on a envie. Donc, assez naturellement, ton corps va te diriger vers ce dont tu as envie et tu n'iras pas. Peut-être qu'il y a un temps où on ne te fait qu'un bisou et puis un autre moment, eh bien, effectivement, ce sera plus intrusif par des langues qui se mêlent.
Et si son fils donc pose cette question d'un baiser avec une fille ou un garçon, peu importe. Comment? Parce que les questions, elles sont aussi techniques. C'est ce qu'elle dit. Il demande comment on roule une pelle. On peut quand même expliquer comment on fait un baiser. Il y a une technique.
Écoutez, je crois que.
À un enfant de 11 ans, quoi.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens vieille époque qu'on lisait Podium où il y avait par le menu l'explication de comment on embrassait.
Mais on avait une aide, du coup. Je ne sais pas si ça existe toujours, ça.
Donc, mais certainement, et c'est pour ça, comme le disait Jimmy, il faut éviter. Les aides violentes que pourrait représenter la pornographie, encore que je pense qu'ils sont tellement au-delà que le baiser n'existe même pas. Mais effectivement, l'enfant a besoin de se rassurer parce qu'il a peur de s'étouffer, de ne pas tourner dans le bon sens. La langue de qui rentre dans la bouche de qui?
Et peut-être expliquer que c'est le début de la sexualité, en fait.
Absolument.
Le baiser fait partie de la sexualité, que ce n'est pas quelque chose d'anodin et qu'on ne fait pas des bisous juste comme ça.
Oui, et puis que c'est une très belle étape parce que cette étape permet de comprendre et de préparer notre compétence future. Parce que le baiser est vraiment l'invitation à venir dans la pénétration. C'est un moment où on apprend à pénétrer le corps de l'autre et des moments où, et également à recevoir le corps de l'autre. Donc c'est un moment où on est fixé non pas sur l'autre, mais sur ce qui se passe dans sa bouche, du plaisir de jouer avec le corps de l'autre.
Il n'aura plus envie d'embrasser personne, de toute façon, ce petit garçon. Donc au moins, il faut qu'on lui explique tout ça. Ça me semble très compliqué, mais non.
Ah non, en fait, au contraire, il est complètement là-dedans. C'est formidable, un baiser. C'est merveilleux, à condition de ne pas brusquer la bouche de l'autre ou de ne pas être brusqué dans le timing à s'accorder. Et je crois que c'est cela qu'il faut dire. Et après, effectivement, les langues jouent l'une avec l'autre assez naturellement.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Dans un instant, je vous laisse en compagnie, bien sûr, comme tous les jours, de Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement votre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, monsieur est servi.
Ah, ça c'est sympa Stéphane.
Oui, absolument. On va parler des grands serviteurs, des majordomes, des valets de chambre. Alexandre Bontemps, qui fut très très longtemps, 50 ans, premier valet de Louis XIV. Céleste Albaret, qui fut la confidente, l'amie, la plus proche de Marcel Proust. Et vous avez choisi, c'est bon, je ne le connais pas, lui.
Alfred Pennyworth, vous ne le connaissez pas, Stéphane, vous, si, bien sûr de ne pas le connaître. Vous le connaissez puisque vous l'avez incarné
à l'écran.
Dans Lego Batman, le film, hein, qui est quand même un chef-d'œuvre.
On peut le dire.
Alfred, c'est bien sûr le valet très célèbre, le majordome, que dis-je, le majordome de Bruce Wayne, alias Batman.
Vous m'amenez mon goûter, s'il vous plaît.
Oui, ça vient.
Je vous souhaite une excellente émission, messieurs. Merci beaucoup. On sera à l'écoute, bien évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.